Donc bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir assister à cette rencontre avec Toby Nathan autour de son livre « Filtre d'amour » publié aux éditions Odile Jacob. Toby Nathan, bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur de psychologie à Paris 8. Vous êtes aussi romancier. Vous venez de publier précédemment cette année « Les nuits de patience », un roman policier édité chez Rivage. Et l'année dernière, votre livre « Ethnoroman », une biographie, a reçu le prix Femina Essai en 2012. Vous êtes aussi le représentant le plus célèbre de l'ethnopsychiatrie en France, une discipline fondée par Georges Levreux, dont vous êtes le disciple. Le propos de votre livre, comment le rendre amoureux, comment la rendre amoureuse, comment déclencher la passion chez l'autre, voilà une question que toute personne amoureuse s'est posée à un moment, voire même à plusieurs moments de sa vie. Vous pensiez avoir été charmé par le doux visage de votre compagnon, de votre compagne, par son intellect ou par sa belle âme. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Vous avez été tout simplement l'objet d'une capture délibérée. Car la passion amoureuse est le résultat d'une manipulation. Et c'est par cette phrase que commence votre ouvrage. La passion amoureuse qu'éprouve quelqu'un est le résultat des pratiques de l'autre. Il n'y a donc pas de hasard dans une rencontre amoureuse. Objets magiques, filtres, parfums, prières, paroles ésotériques, nourriture ou boissons préparées, la littérature et les mythes des civilisations antiques du pourtour méditerranéen regorgent cette idée de passion amoureuse déclenchée par une manipulation. Une idée qui est elle-même très présente dans les croyances populaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et en Amérique du Sud. Donc c'est une véritable enquête que vous nous proposez avec ce livre, basée sur l'étude de deux textes d'ethnologie, de mythes, mais aussi d'exemples concrets d'histoires que l'on vous a racontées dans le cadre d'une consultation, tout simplement comme ça, pour essayer de comprendre quelles sont les différentes méthodes et techniques pour rendre l'autre fou d'amour. Tout d'abord, ma première question portera sur une définition. Toby Nathan, qu'est-ce que la passion amoureuse, qui est au centre de cet ouvrage, et qui est un état que l'on a tous connu, que l'on peut connaître actuellement, ou qu'en tout cas je vous souhaite de connaître?
Vous souhaitez ?
Que les autres le connaissent.
Ah oui, d'accord.
Ah, oui, bien sûr.
Bon.
C'est tellement merveilleux.
Mais tout le monde le sait, je veux dire. Bon, d'abord, il faut bien distinguer, je parle de la passion amoureuse et pas de l'amour, parce qu'en français, le mot est ambigu, il est multiple. Et bon, on va pas rentrer dans les définitions en détail, mais vous savez quand même que, bon, disons, on va dire qu'il y a deux formes, quoi, et de relations amoureuses à la personne. Il y a un amour durable, raisonnable, on va dire, cet amour qui fait que deux personnes vivent ensemble, par exemple, et qui est un amour tranquille, on va dire, celui auquel tout le monde aspire, j'imagine, un amour tranquille. Et puis il y a une autre forme d'amour qui est cette espèce de folie, quoi. C'est une véritable folie qui est la passion amoureuse. Et moi, je ne parle que de la passion amoureuse. D'ailleurs, les Grecs distinguaient par deux mots différents ces deux états. L'un, il disait Eros pour dire la passion amoureuse, c'est-à-dire l'espèce de folie amoureuse qui fait qu'on est complètement capturé par l'autre, et ils appelaient l'amour raisonnable, on va dire, l'amour au long cours, ils l'appelaient philia, qu'on traduit parfois par amitié, mais en fait ça veut dire l'amour, hein, tout simplement. Donc moi je parle de l'éros et pas de la philia. Donc qu'est-ce que c'est? Je suis un petit peu en désaccord, même plus qu'un petit peu, en désaccord avec Platon. Platon disait qu'est-ce qui définit l'éros? C'est le manque, en fait. C'est ça que disait Platon. Je suis d'accord sur la notion de manque. C'est même la phénoménologie de la passion amoureuse. La phénoménologie, elle est une phénoménologie du manque. C'est-à-dire l'autre, ce personnage qui est rentré à l'intérieur de moi, il me manque tout le temps. Quand il n'est pas là, il me manque. Et quand il est là, il me manque encore. Comme si ce à quoi j'aspirais avant tout, c'était de fusionner avec lui. Et comme cette fusion n'est jamais obtenue, eh bien, même au moment même de l'orgasme, il me manque encore, quoi. Et c'est un symptôme permanent. Alors, si ça peut se comparer à quelque chose, et ça a été comparé avec, avec des raisons, hein, je comprends bien les raisons, ça peut se comparer à la toxicomanie, par exemple, hein, c'est-à-dire que ce qu'on éprouve, ce qu'éprouve un toxicomane, eh ben, c'est le manque, quoi. C'est-à-dire, quand j'ai pas ma substance, elle me manque, sauf que la différence avec le toxicomane, c'est que l'amoureux, quand il a la personne avec lui, son objet, en fait, eh ben, il lui manque encore. Alors que le toxicomane, au moins pendant un temps, pendant le temps de l'absorption de la substance, eh ben, elle lui manque plus. La substance, il oublie. Il l'oublie. L'amoureux l'oublie. Enfin, celui qui a une passion amoureuse l'oublie jamais. Voilà, c'est si vous me demandiez de le définir, mais je le définis de manière phénoménologique. Hein. Mais au fond, d'un point de vue ontologique, s'il fallait le définir d'un point de vue ontologique, je le définirais comme une générosité, en fait. La passion amoureuse est une générosité. C'est-à-dire que vous êtes, à partir du moment où vous êtes constitué, ça arrive à l'adolescence. Hein. Les enfants n'ont pas de passion amoureuse. Ils ont des amours. Hein. Ils aiment les enfants. Mais ils n'ont pas de passion amoureuse, cette espèce de folie amoureuse. Il faut déjà être complètement constitué, fermé, c'est-à-dire animé d'intentions personnelles. À partir du moment où vous êtes comme ça, vous êtes presque une monade. Vous êtes constitué, vous avez une membrane. Vous êtes fermé. Et la passion amoureuse, c'est ce qui ouvre la membrane et qui vous contraint à faire rentrer un autre à l'intérieur de cette membrane. Et cette chose-là, c'est une contrainte, hein, et c'est une générosité. Parce que sans ça, vous êtes qui vous êtes, quoi. Et vous n'êtes rien que qui vous êtes, ce qui est quand même dommage, quoi. Et donc, je le définirais comme une générosité. Je le définirais aussi comme la possibilité d'être... la possibilité d'une révolution permanente, je dirais. Parce que, évidemment, à partir du moment où vous êtes amoureux, tout est possible. Tout est possible. Les barrières sociales, les barrières ethniques, les barrières religieuses tombent. Elles n'ont plus de raison d'être. Et c'est par la passion amoureuse que les gens sortent de leur univers et inventent d'autres façons d'être, quoi. C'est-à-dire, on dit... par exemple, prenons un exemple comme ça, mais qui est un exemple courant. On dit comment font les jeunes d'autres populations qui viennent d'ailleurs, les enfants de migrants, par exemple, pour s'intégrer, par la passion amoureuse. Hein. C'est-à-dire, ils vont s'intégrer parce qu'ils vont avoir une passion amoureuse pour quelqu'un d'une autre culture qu'eux, et à ce moment-là, ils vont suivre. Hein. C'est la passion amoureuse qui contraint à la sortie de soi-même. Donc vous portez en vous les germes d'une espèce de révolution permanente, comme ça. Et donc c'est évidemment que ça fait peur, à tout le monde, mais c'est la part incontrôlable de soi. Il y a deux choses comme ça à l'intérieur d'un être humain. Le jour, c'est la passion amoureuse, et la nuit, c'est le rêve, c'est les choses qui sont incontrôlables. D'ailleurs, j'ai écrit juste avant un livre sur le rêve. Voilà.
Donc le postulat de votre ouvrage reste quand même que l'on peut déclencher la passion amoureuse, que l'on ne tombe pas...
Alors, là je ne vous suis pas tout à fait, excusez-moi.
Il n'y a aucun problème.
Non, c'est-à-dire, oui, ça se trouve au début du livre, mais c'est une sorte de pari plus qu'un postulat, c'est un pari. Je dis, je sais bien ce que pensent mes contemporains, je ne sais pas ce que je pense moi-même, hein, mais je sais bien ce que pense le monde ambiant, quoi, le monde dans lequel j'ai grandi et le monde qui m'entoure, c'est que la passion amoureuse survient par hasard, quoi. Le coup de foudre, on passe devant quelqu'un et tout d'un coup, clac, c'est celui-là. Et c'est ça qu'on pense habituellement, on a envie de penser ça. Maintenant, moi, si on regarde les choses à partir d'un monde plus vaste, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait autrefois ou qu'est-ce qui se passe ailleurs, la plupart des sociétés, la plupart, hein, je dis, hein, je ne sais pas, parce que je ne connais pas toutes d'abord, hein, mais les sociétés que je connais, j'ai connu un peu les sociétés africaines, j'ai vécu à plusieurs reprises en Afrique, je suis né là-bas en plus. Donc, en Égypte, pas en Afrique, mais je suis né en Égypte et puis j'ai connu les sociétés africaines ensuite. Et dans ces mondes-là, il est évident que la passion amoureuse se déclenche. La passion amoureuse se déclenche. Je dis, ces sociétés-là ont des arguments pour dire ça se déclenche. Non seulement ils ont des arguments, mais ils ont des procédures. Ces procédures, on peut les connaître. Ils ont des objets et ils ont des façons de faire pour le faire. Alors je fais le pari, je dis, et si c'était vrai, et j'essaye de développer cette hypothèse, en fait, ce pari, c'est même plus qu'une hypothèse, c'est un pari. Et si c'était vrai, allons jusqu'à ses conséquences ultimes, ces hypothèses et j'essaye de démontrer la vérité de quelque chose à quoi je ne crois pas au départ. Hein. Et j'essaye de le démontrer avec des arguments qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin et qui viennent de tout près. Voilà. Voilà l'objet du livre, si vous voulez. Bon, c'est un livre un peu personnel, quand même. Je vois pas qui d'autre aurait pu écrire un livre pareil. Je blague.
Donc le premier exemple que vous citez en fait dans votre ouvrage est un exemple en fait qui est tiré d'un livre de Michel Léris qui s'appelle L'Afrique fantôme, qui est tiré plus exactement de son journal, hein, de son journal d'ethnologue quand il était parti au début des années 30 dans une mission ethnologique de Dakar à Djibouti. Et dans lequel vous vous attardez tout particulièrement sur le rituel zar. Donc un rituel de femme, et de femme, un rituel de possession.
Bon, alors, je commence là-dessus parce que je découvre, en regardant les choses, je découvre que la plupart du temps, les passions amoureuses, dans les mondes d'autrefois, mais plus qu'autrefois, dans la préhistoire, les passions amoureuses les plus intenses, en fait, celles qui sont décrites de la manière la plus détaillée, sont des passions amoureuses des êtres humains pour des divinités, en fait. C'est les dieux dont on tombe amoureux. Alors là, franchement, bon, évidemment, pour les catholiques, ça doit vouloir encore dire quelque chose, sauf qu'il n'y a pas tellement de sexe avec le dieu des catholiques, hein, même que c'est interdit pour tout le monde, même. Donc, mais c'est quand même, il reste cette histoire de cette relation d'amour entre le fidèle et son dieu. Mais dans l'Antiquité, c'était vraiment de l'Antiquité dont je vais vous parler tout de suite, c'était vraiment une relation intime. Les dieux faisaient l'amour avec les êtres humains. Et donc, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Et je les connais, ces façons de faire. Je sais comment on fait l'amour avec un dieu. Je voulais que je vous raconte. Non, je sais comment on fait l'amour avec un dieu. Et justement, je décris le rituel de Zar parce que c'est précisément ça. Le rituel de Zar, c'est un rituel au cours duquel on organise une espèce de relation, enfin un amour passionné entre un être humain et un invisible non humain. C'est pas un dieu dans le cas des Zar, les Zar, Zar, Z-A-R, parce que je sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit, je veux dire si vous entendez vraiment, le Zar, c'est un être et c'est un rituel, hein. C'est comme vous diriez un djinn, quoi. Mais c'est éthiopien, on dit zar. Le mot zar est très très important, mais je l'analyse en détail, le mot lui-même, enfin. Bon, et donc, ce rituel qu'on organise est un rituel, j'en parle aussi du rituel, parce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que, supposons qu'une femme, c'est souvent des femmes, hein, c'est dans le zar éthiopien, c'est 80% des femmes, hein. Dans le zar que j'ai connu, moi, en Égypte, dans mon enfance, je pense qu'il doit être pareil, quoique mon enfance est lointaine. Hein, mais bon, je sais pas, ça a peut-être changé, je suis pas retourné en Égypte. Hein, mais dans le zar que j'ai connu en Égypte, c'était 100% de femmes. Il n'y avait aucun homme, hein, qui participait à ces rites. Et en Éthiopie, il y a des hommes, hein, mais pas beaucoup. Imaginez, vous avez une femme qui est malade. On dit, si elle est malade, c'est parce qu'un zar la possède. La maladie qu'elle a au moment, avant qu'on fasse le rituel de zar, la maladie qu'elle a, c'est très souvent une maladie de type dépressif. Si vous êtes un psychiatre français, vous la regardez, vous dites, elle fait une déprime, quoi. Elle veut plus bosser, elle se lève pas du lit, elle veut pas faire la cuisine, et puis surtout, elle veut pas coucher avec son mari, quoi. Et donc, ouais, enfin, il y a d'autres raisons pour pas coucher avec son mari, je suis d'accord avec vous, mais bon, enfin, grosso modo, c'est un syndrome dépressif. Et donc on dit, si elle est comme ça, c'est parce qu'il y a un zar qui demande quelque chose. Et on fait un rituel, elle n'a jamais vu son zar, enfin elle ne l'a jamais connu encore jusqu'à présent. Et ce rituel, c'est la rencontre entre un invisible non humain et une femme. Et cette rencontre va se manifester de manière extraordinaire, comme ça elle va rentrer en transe, elle va danser, elle va faire des tas de choses, et en particulier des choses qui évoque l'amour. Plein de gens ont dit, les récits y compris, hein, que ça ressemble à une relation d'amour, en fait, hein, parce qu'elle fait des mouvements pendant la transe, tout ça. Et donc, cette relation, c'est une première rencontre. Et cette relation va durer toute sa vie. Cette relation, elle est organisée de cette manière. Elle est organisée comme une rencontre passionnelle entre un invisible non-humain et un humain. C'est sûr, c'est à ça que ça fait référence. Alors, le Zar, c'est ça. L'Iris. L'Iris est un personnage, peut-être vous le connaissez, vous avez peut-être déjà lu l'Iris, hein, j'imagine, je vous le souhaite d'ailleurs, parce que c'est un très grand écrivain, et c'était un, pour moi, un des meilleurs ethnologues qu'on ait jamais eu, peut-être le meilleur. Et donc, il faut dire dans quel état il se trouve. L'Iris a toujours été mélancolique, en fait. Mélancolique, pas au sens psychiatrique du mot, hein, au sens commun du mot, quoi. Je sais pas comment on dit, neurasthénique, mélancolique, il avait le spleen. Et puis surtout, mélancolique, parce qu'il pensait qu'il était nul, quoi. Donc, il n'avait pas d'imagination, qu'il n'avait pas de capacité. Donc, on lui dit, écoute, fais quelque chose. Si tu crois que t'es pas bon, fais quelque chose. Et il fait 5 ans de psychanalyse. C'est les années 20, hein. C'est un des premiers à faire des choses comme ça. Et donc, il fait 5 ans de psychanalyse avec un psychanalyste qui était le psychanalyste des artistes, qui psychanalysait les gens célèbres, comme ça. Et il fait 5 ans de psychanalyse, puis après, il est pareil. Il se trouve toujours aussi nul. Alors il dit, il faut que je trouve un autre moyen. Et il va, lorsqu'on lui dit, on fait cette mission Dakar-Djibouti, il faut que je vous dise un peu qu'est-ce que c'était que cette mission Dakar-Djibouti. Quelques mots, quoi. C'est-à-dire, c'est les années cinglées, quoi. On a appelé ça les années folles, mais c'est vraiment les années cinglées. Il naît dans l'idée de nos administrateurs coloniaux, cette idée incroyable que puisque c'est la France, le Mali c'est la France, le Sénégal c'est la France, le Burkina Faso, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait la Haute-Volta, c'est la France, tout ça c'est la France, et il faut qu'on aille récupérer les œuvres d'art qu'il y a dans ces pays. Et ils sont allés piller les villages. C'est tout ce que vous voyez au Musée de l'Homme aujourd'hui, enfin plus au Musée de l'Homme, puisque le Musée de l'Homme a donné toutes ses collections au Musée du Quai Branly, mais vous voyez, les collections du Musée du Quai Branly proviennent, les collections africaines proviennent pour une grande partie de cette mission Dakar-Djibouti. Donc ils arrivent dans les villages, puis il y a un fétiche qui est le fétiche du village, qui est un fétiche traditionnel, vous imaginez ce que c'est. Et ils disent « propriété de l'État français ». Hop, on prend, hop, on ramène ça à Paris. Et puis ils font aussi tout un travail d'anthropologie, hein, je ne dis pas le contraire. Ils sont allés, ils ont regardé les Dogons, notre passion pour les Dogons, tout ça. Puis ils continuent leur chemin, tout ça, ils font tout ça, toute l'Afrique, et puis ils vont jusqu'en Éthiopie. C'est pas français, l'Éthiopie, à ce moment-là. Hein. Ils vont jusqu'en Éthiopie. Et là, l'Iris, il a des fantasmes plein la tête. Et il en a deux dans sa tête. C'est Rimbaud et Conrad. Il a Rimbaud dans la tête. Rimbaud qui a rencontré sa belle Abyssine et il est parti jusqu'à Gondar, qui est l'ancienne capitale de l'Éthiopie, qui est un endroit extraordinaire. Et puis il a aussi Joseph Conrad qui est rentré tout au fond de l'Afrique, au Congo, jusqu'au fond. Et il a ces deux choses-là dans la tête et il dit « je vais là me découvrir moi-même ». Il arrive là et il se retrouve dans un rituel de Zar. Il revient à ce rituel de Zar tous les jours. Il assiste tous les jours à ce rituel de Zar. Il a dans la tête « Et si j'arrivais à entrer en transe, par pitié, Dieu, faites-moi entrer en transe pour que j'ai de nouveau, que j'ai, ma créativité se manifeste. » C'est ça qu'il veut. Et il y va tous les jours. Et il ne rentre pas en transe, mais il tombe amoureux. Et voilà. C'est de là que part mon bouquin. C'est que, il tombe amoureux parce qu'au fond, il est un moderne, quoi. Il est un moderne, il appartient à un monde laïque où les invisibles non-humains n'ont pas de consistance, sont considérés comme des fantasmes ou des idées ou des imaginaires ou des choses comme ça. C'est pas des êtres, quoi. C'est des pensées métaphoriques, quoi. Alors évidemment, il peut pas tomber amoureux d'une pensée métaphorique, mais il tombe amoureux de qui ? De la fille de la prêtresse du Zar. Et là, c'est un truc incroyable. Il est amoureux, il écrit des poèmes incroyables là-dessus. Et je raconte le moment du virage, si vous voulez. Et je le raconte très en détail. J'ai voulu faire un arrêt sur image sur ce moment, parce que ce moment me permet ma première formulation, si vous voulez. C'est-à-dire que l'amour est une religion avec un Dieu qui n'est plus un Dieu. C'est donc bien une sorte de générosité, comme je vous le disais, et une passion qu'on éprouve pour un autre, mais cet autre n'est pas un invisible non humain. Et celui qui condense tout ça, c'est Michel Léris. Alors, ça s'arrête comment ? C'est qu'à un moment donné, il dit, il se jette à l'eau et il met la main sur la cuisse, entre les cuisses en fait, de cette femme qu'il désire de tout son cœur, de toute son âme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réagit comme une prêtresse de Zard, quoi. Elle rentre en transe, elle. Parce que c'est une professionnelle de la transe. Elle se lève, elle se met à danser, et dans ses chants, elle lui dit « Viens, mon amour », etc. Et hop, elle accepte, mais elle accepte à la façon éthiopienne. Et là, il prend peur, et d'un seul coup, il se rend compte que elle a déjà eu 3 maris, qu'elle est probablement syphilitique, etc. Il n'en veut plus du tout. Et il part à Paris. Voilà. Donc, c'est cette histoire-là que je raconte pour bien montrer que l'amour... pour comprendre qu'est-ce que c'est que la passion amoureuse, on ne peut pas faire l'économie de la réflexion de toutes ces divinités de l'Antiquité qui étaient à la fois celles dont on tombait amoureux et celles grâce auxquelles on déclenchait l'amour chez l'autre. On ne pouvait pas déclencher l'amour chez l'autre sans céder d'une de ses divinités. Et il faisait la conjonction. Et lui est un moderne. Il peut pas. Ça peut pas se faire. Il peut pas avoir une relation avec un invisible non humain. Et donc, il a une relation tout bêtement amoureuse. Et il se comporte au fond comme un bourgeois qui est tombé amoureux d'une femme pauvre. Et il dit, bon, une passade, ça va, mais pas plus, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais de toute façon, c'était un grand bourgeois, hein, Michel Léris. Hein. Et 16e arrondissement, tout ça. C'est même pas 7e arrondissement. Hein. C'était 16e arrondissement. Ouais, ça peut être les Bordelais, vous pigez pas les nuances. C'est 16e arrondissement, c'est pas les intellos, quoi. Hein. 7e arrondissement, c'est plus proche du boulevard Saint-Germain, si vous voulez. Voilà.
Donc les cultes de possession sont des passions amoureuses adressées à des non-humains. Et pour rendre l'autre fou d'amour, on peut aussi donc demander aux divinités directement et aux divinités spécialisées.
On ne peut pas faire l'économie de ça. Hein. C'est-à-dire que toute l'Antiquité est marquée par ça. Pardon, vous vouliez poser la question.
Oui, mais enfin, ça poursuit justement ce que je voulais dire. C'est que dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ, il y avait déjà une des premières, en tout cas celle dont on a encore des traces aujourd'hui, donc divinité, spécialité dans l'amour, en Mésopotamie, et cette divinité, c'est Inanna.
Oui, alors, Inanna, vous savez qui c'est ? Inanna, d'abord, elle est super. Hein. Il y a une photo. Non, mais c'est pas une photo, mais c'est bien sûr. c'est un dessin tiré d'un bas-relief, en fait. Hein. C'est un bas-relief. Et il est célèbre, le bas-relief en question. C'est-à-dire, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai vu des statuettes grecques, d'Aphrodite, tout ça. Elle est pas terrible, hein. Je sais pas comment vous la trouvez, mais elle est pas terrible. Si vous aimez bien, moi je la trouve pas terrible. Elle est pas très sexe en tout cas. Alors que si vous regardez Inanna, pourtant elle est vachement plus ancienne. Hein. Elle a 5000 ans. Inanna, elle a 5000 ans. Hein. Elle est super appétissante, quoi. Hein. Elle est super sexe, quoi. Elle est belle et elle est sexe. Hein. Et ça, cette représentation, c'est extraordinaire parce que vous avez. Elle vient buter contre une sorte d'énoncer que vous avez, je suis sûr, dans votre tête, un de vos a priori, quoi, que la sexualité, c'est de la sauvagerie, et que pour sortir de la sauvagerie, on refoule la sexualité, parce que vous êtes tous freudiens, j'imagine, parce que c'est Freud qui a dit ça, mais tout le monde pense ça. En fait, c'est exactement le contraire. La Mésopotamie, c'est exactement le contraire. On pense que la sauvagerie, c'est s'intéresser aux animaux sauvages, et comment on tire quelqu'un de la sauvagerie ? Par la sexualité. Et c'est Inanna qui civilise les sauvages qui s'intéressent qu'aux bêtes sauvages, justement, et à la chasse. Et comment elle civilise ? Et il y a un personnage, quoi, Enkidu, je raconte l'histoire d'Enkidu là-dedans, un personnage, Enkidu, qui va devenir l'assistant de Gilgamesh, le héros civilisateur dont vous avez entendu parler, j'imagine. Et Enkidu, comment est-ce qu'on le dompte, quoi ? Comment on le sort de sa sauvagerie ? Eh bien, on lui envoie une prostituée sacrée. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas le moment de parler de la prostitution sacrée, je crois, en France, parce que ce n'est pas la prostitution dont on parle, c'est la prostitution sacrée. C'est ce qu'on appelle une harimtu. Prostitution sacrée dans toute l'Antiquité, c'est pas vraiment de la prostitution. C'est de la prostitution, bien sûr, mais il y a des ambiguïtés, on a du mal à comprendre. C'est la femme libre, en fait. C'est la femme libre, pourquoi ? Parce qu'elle n'appartient pas à un homme. Et les femmes qui faisaient des études, qui connaissaient des choses, qui avaient de l'argent, qui étaient indépendantes, eh ben c'était des harimtu, quoi. Hein. Donc, des prostituées sacrées. Et donc, on lui envoie une prostituée sacrée. Non seulement elle est prostituée sacrée, mais surtout, elle est super douée pour le sexe, quoi. Et elle commence à le faire jouir, quoi. Mais c'est écrit comme ça dans les tablettes religieuses, quoi. Elle commence à le faire jouir. Et il aime tellement ça qu'il quitte ses animaux sauvages, la chasse, etc. Et il vient en ville et elle le civilise par la sexualité, quoi. C'est exactement le contraire de ce qu'on pense. C'est-à-dire, au début, il était la sauvagerie et on sort de la sauvagerie par la sexualité. Une société comme ça, c'est évidemment pas la même que la nôtre, quoi. Hein. Bon. Et dans cette société, la déesse, la force principale, c'est Inanna, la déesse des prostituées sacrées, bien sûr, des harimtu. Et cette Inanna, elle aura une descendance, hein, puisque après, elle deviendra Ishtar, Astarté, Asherah dans la Bible. La Bible nous a donné plein d'informations sur ces cultes. Parce que tout le temps dans la Bible, on dit les Asherah, en disant surtout n'allez pas chez les Asherah, hein, bien sûr, hein, c'est ça qu'ils disent dans la Bible. Hein. Mais enfin, du coup, ils nous donnent des informations, quoi, que c'était. On se marrait bien, quoi, chez les Asherah, quoi. donc, c'est ce personnage-là. Ensuite, quand elle passera de l'autre côté. Chez les Grecs, elle deviendra Aphrodite, Vénus chez les Romains, et elle restera en Europe très très longtemps. Michelet l'a décrit sous le nom de Diane, en fait. Hein. Et c'est encore ces cultes-là qu'on a dans les campagnes au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Donc ce personnage qui est à la fois la pulsion sexuelle, en fait, hein. son être même, c'est d'être la pulsion sexuelle. Qui est en même temps une femme, en même temps une femme libre. C'est ce personnage auquel on s'adresse nécessairement si on veut déclencher l'amour chez l'autre. Inanna, oh Inanna, toi qui es la maîtresse du désir, de la pulsion sexuelle, fais en sorte que Françoise Dupont, là, à laquelle je pense sans arrêt, vienne à moi pleine de désir de moi. Fais ça. Et on fait des invocations à Inanna. Et on en a plein. On en a retrouvé des centaines, peut-être des milliers. Je sais pas, j'en ai vu, moi, beaucoup. Hein. Et si vous lisez Botero, vous en avez plein. Il les a notés. Vous pouvez les lire, etc. Donc c'est ce monde-là. Et c'est évident qu'un monde comme ça, avec Inanna, est un autre monde que le nôtre. On nous a trompés, hein. On vous a trompés, ouais, moi aussi, hein. Mais moi j'ai pris conscience, j'espère que vous allez prendre conscience aussi. On nous a raconté que les déesses féminines, c'était un autre temps, c'était le matriarcat, et que ça a changé après, ça a été le patriarcat. C'est des erreurs, hein. Il n'y a pas eu de matriarcat, rien du tout, c'est pas ça. Les déesses féminines, ce sont des déesses de la passion amoureuse, parce qu'on sait dans ces mondes-là, la force de la passion amoureuse, et on est décidé à ne pas la laisser au hasard, au contraire, à en faire l'allié, et l'allié aussi du pouvoir. Hein. Encore une parenthèse, moi je vais être trop long, hein, mais encore une parenthèse, c'est quand même un monde où une fois par an, le roi avait une relation sexuelle en public avec la prêtresse qui représentait Inanna. C'est-à-dire, en général, c'était une jeune, hein, c'était une vestale, quoi. Hein. Et donc, mais ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que c'était en public, quoi. Le roi s'accouplait en public avec la déesse, et de cet accouplement allait naître la force et la fécondité du royaume. Pas seulement la fécondité, la force aussi. Parce que Inanna est à la fois déesse de la passion amoureuse, mais déesse de la guerre aussi. Parce que c'est parce qu'il est allié avec la pulsion sexuelle à l'état brut qu'il devient puissant à la guerre. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est une époque. Et il y a des gens qui disent, je ne suis pas certain de ça, mais j'ai suivi, je ne suis pas un historien, hein, moi je suis allé piocher tout ça chez les historiens, je me suis renseigné bien sûr, mais il y en a certains qui disent que toutes les méthodes, tous les objets, tous les filtres, etc. d'amour découlent de ces rituels mésopotamiens. Alors, ça, je ne suis pas certain de ça, parce que je pense que des peuples différents peuvent découvrir des choses semblables. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent tous, hein, ces rituels. Qu'on retrouve des rituels pareils en Égypte antique, il y a des centaines, j'en donne un tout au début de mon livre, là, très très détaillé, mais on en trouve des centaines dans l'Égypte antique, et ensuite on retrouve les mêmes en Grèce ancienne. C'est ça qui m'a le plus surpris, c'est la Grèce ancienne, quoi. Bon, alors, je vais bavarder, sinon. Alors, posez-moi vos questions, plutôt.
Mais non, mais on peut continuer, justement, sur la Grèce ancienne, puisque sur la Grèce antique, puisque vous dites dans votre livre que les Grecs nous avons apporté énormément de choses, la rationalité, le logos, la politique, mais qu'à côté de ça, pour ce qui était des questions de l'amour, il y avait un côté un peu irrationnel, on s'en remettait uniquement aux divinités.
Moi, je ne sais pas si c'est irrationnel, moi je trouve ça très rationnel, hein, au contraire. Hein. Je trouve que, mais en tout cas, pour les Grecs, il est évident que si on éprouve une passion amoureuse, c'est qu'on nous a fichu quelque chose sous notre porte, quoi. Hein. C'est évident, quoi. Il n'y a pas de raison, autre que ça. Et ces objets-là qu'on a retrouvés, là aussi par centaines, hein. Il y a un bouquin magnifique que je cite à plusieurs reprises dans mon livre qui contient à la fois les formules qu'on retrouve sur des ostracas, c'est des tessons de poterie comme ça qu'on a retrouvés en faisant des fouilles en Grèce, mais aussi en Égypte, dans l'Égypte grecque, et aussi en Syrie, dans la Syrie grecque. On a retrouvé des tas d'ostracas comme ça, et on écrivait une formule là-dessus, de la personne qu'on convoitait, elle était nommée là-dedans. Et on allait lui mettre ça sous le pas de sa porte pour que, au matin, quand elle se lève, elle sort de chez elle, elle marche dessus. Après, elle ne sait pas pourquoi. Oh, j'ai eu un coup de foudre pour. Comment vous appelez-vous ?
Sylvain.
Sylvain. J'ai eu un coup de foudre pour Sylvain. Mais elle croit ça, en fait. C'est moi qui lui ai mis un truc sous le pas de la porte, en fait. Hein. Voilà. Donc, vous voulez que je vous fasse ça ? Et ces objets-là, les Grecs appelaient ça agogé. Agogé en grec, ça veut dire pour la contrainte. Objet pour la contrainte. Objet pour contraindre les sentiments de quelqu'un d'autre à s'exprimer pour un tel, quoi. Objet agogé. Savez-vous que dans la Grèce antique, c'était tellement une évidence que ça fonctionnait, hein, qu'on pouvait faire un procès. Parce que comment fonctionne un agogé ? Exactement comme la toxicomanie. Hein. C'est-à-dire que l'agogé vous rend malade, en fait. Vous tombez malade. Vous avez mal au bide, vous ne pouvez plus manger. Les symptômes sont toujours pareils. Hein. C'est l'anorexie, essentiellement. D'ailleurs, quand vous voyez quelqu'un qui est anorexique, demandez-vous de qui ? Je veux dire, vous êtes anorexique de qui, quoi ? Parce qu'anorexique, ça veut dire amoureux, en fait. Hein. Et donc, sitôt qu'on voyait les symptômes, on disait, il y a quelque chose comme ça. Et on pouvait faire des procès. Les procès, on en connaît un certain nombre, des procès qui ont eu lieu sur l'agora. C'est-à-dire des gens qui ont dit « je suis malade, je n'arrive plus à manger, je suis complètement taciturne, tout ça ». Parce que quelqu'un m'a fait un objet agogé et j'ai identifié la personne, c'est une telle. Et la personne était jugée, était appelée en jugement. Si elle arrivait à démontrer qu'elle l'a fait, mais elle-même était amoureuse et c'était pour obtenir un amour réciproque, ça allait. Mais si c'était pour autre chose que pour l'amour, elle était condamnée quand même, hein. Condamnée à des dommages et intérêts, etc. C'était quand même, je veux dire, c'était une évidence que ça fonctionnait. Alors comment ça fonctionne, ces objets ? Ils fonctionnent par la maladie. Ils vous donnent la maladie, et tant que vous n'êtes pas allé vous soumettre au désir qui est exprimé dans la goguée, vous restez malade. Donc vous y allez pour ne plus être malade, en fait. Donc la maladie, et ça fonctionne exactement comme dans le rituel de possession que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, une femme possédée, quand elle est possédée, elle n'est pas du tout en transe. Elle est déprimée, elle est malade. Et tant qu'elle n'a pas rencontré l'être invisible dont elle va tomber amoureuse, elle reste malade. Et au fond, l'amour est la guérison d'une maladie artificielle donnée par quelqu'un, au fond. C'est quelque chose comme ça. C'est ça la philosophie de ces objets à goguer. Je trouvais que c'était... D'abord, ça concordait tellement avec ces histoires de rituels de possession et que ces objets étaient tellement nombreux, tellement présents, que je me disais, c'est pas possible qu'on passe devant sans se rendre compte de leur existence. Voilà, c'est à ça que j'invite les gens. Et après, il faut réfléchir comment on applique ça chez nous. Hein. C'est, évidemment, là, il y a un travail de réflexion après. Mais d'abord, un travail de description.
Vous parlez aussi, vous évoquez aussi le parfum. On a parlé effectivement de la complicité des dieux, de l'objet avec une magie, ou en tout cas une incantation dedans, que l'on fait manger, que l'on pose en dessous aussi d'une personne convoitée. Il y a aussi les parfums, en fait, les odeurs qui sont très très présentes aussi dans les techniques
pour déclencher l'amour.
Voilà. Et vous parlez en fait du mythe d'Adonis.
Oui, alors tout ça provient. Ouais, il y a un mythe qui est absolument extraordinaire parce que il résume un peu. Enfin, il est comme tous les mythes, il va beaucoup plus loin que ce qu'il résume. Hein, mais en tout cas, il résume quand on le regarde de près, il résume un peu la logique même de ces objets. Alors, je raconte en deux mots la naissance d'Adonis, mais peut-être tout le monde la connaît. Hein, je sais pas. Vous savez tous comment est né Adonis, non ? Vous vous souvenez plus, peut-être ? Non, on ne raconte pas ça aux enfants à l'école, dommage d'ailleurs, parce que c'est quand même une belle histoire. Bon, c'est un peu sexe, quoi, mais bon, les enfants peuvent comprendre aussi. Hein. Bon, la passion amoureuse, ils ont du mal à comprendre. En fait, c'est l'histoire d'une passion amoureuse. Hein. C'est une jeune fille qui a, j'imagine, elle doit avoir 13-14 ans, et elle refuse de faire ses ablutions à Aphrodite. Alors, on ne sait pas ce que c'est les ablutions à Aphrodite, sinon que ça veut dire probablement qu'elle s'intéresse pas à l'amour, quoi. S'intéresse pas aux garçons ou aux filles, je sais pas. Enfin, elle s'intéresse pas à l'amour, en tout cas. Et donc Aphrodite, en colère contre elle.
Cette jeune fille, c'est Myrrha, et c'est la fille d'un roi. C'est pas n'importe qui.
Oui, pardon. C'est une princesse. C'est la fille du roi de Chypre. Et donc, Aphrodite, pour la punir du fait qu'elle se détourne d'elle, lui colle une passion amoureuse, mais une passion amoureuse dont elle se souviendra, quoi. Hein. Ah ouais, tu veux pas faire tes ablutions à Aphrodite ? Eh ben, tu vas voir. Et elle lui colle une passion amoureuse pour son propre père. Et donc, là, elle devient totalement obsédée, folle d'amour pour son père, mais d'amour vraiment, de la passion amoureuse, c'est-à-dire qu'elle veut coucher avec lui. Elle veut avoir une relation sexuelle avec lui. C'est ça la passion amoureuse. Hein. C'est-à-dire que le sexe en fait toujours partie, mais elle ne se réduit pas au sexe. Mais le sexe en fait toujours partie. Il n'y a pas de passion amoureuse sans sexe. Hein. Et donc elle veut coucher avec son père, hein, parce qu'elle l'aime, mais elle l'aime passionnément. Elle a une folie d'amour pour son père. Et là, le père, évidemment, elle sait que c'est pas possible, elle peut pas le dire à son père, et donc elle veut se pendre. Et sa gouvernante dit « Non, non, tu vas pas te pendre », et elle lui dit « Je vais t'arranger le coup », la gouvernante. Et la gouvernante va voir le père et lui dit « Voilà, il y a une jeune fille, elle voudrait coucher avec toi, mais elle veut pas que tu connaisses son identité. Donc elle viendra dans la nuit, et elle repartira dans la nuit, et elle ne te parlera pas. Tu pourras seulement coucher avec elle. C'est-à-dire, tu pourras seulement la toucher et la renifler, quoi. C'est ça, hein ? Tu pourras pas lui parler, l'écouter, la voir. Donc, quel sens, quels sont les sens qui vont être mobilisés ? C'est l'odorat et le toucher, quoi. Les sens proximaux, comme ça. Alors, le père, il dit, ouais, elle est moche. C'est pour ça. Alors, la gouvernante dit, non, elle est très, très belle. Elle est belle comme Myrrha, sa fille. S'appelait Myrrha. Alors, le père, il dit, ah bon, d'accord. Et il accepte. Et pendant 9 nuits, elle vient le voir Elle couche avec lui et évidemment, au bout de 9 nuits, il tombe amoureux. Donc il veut la voir, il allume une torche et il voit que c'est sa fille. Il prend une colère terrible, il la poursuit, il veut la tuer. Elle s'enfuit pendant des mois, il lui court derrière pendant des mois, jusqu'au royaume de Saba, dit Ovide, c'est-à-dire en Éthiopie, justement. Nous voilà en Éthiopie. Et il court après elle jusqu'en Éthiopie et là, elle n'en peut plus. Évidemment, elle est enceinte. Ouais, parce que quand on couche avec son père, on est toujours enceinte. Alors donc, non, dans les mythes, hein, je veux dire, bon. Et donc, elle est enceinte, elle est grosse, elle n'arrive plus à courir. Et donc, elle supplie les dieux. Elle dit, pourquoi elle supplie les dieux? Parce que c'est vraiment, c'est la définition même de la chose. Elle ne peut pas vivre et elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas vivre parce qu'elle a commis quelque chose qui est horrible, quoi, qui est une transgression. Une des pires des transgressions, avoir des relations sexuelles avec son propre père, mais elle ne peut pas mourir parce que si elle mourait et qu'on l'enterrait, elle souillerait la terre. Donc elle ne peut ni vivre ni mourir. Et elle demande aux dieux, elle leur dit « Ayez pitié de moi, faites quelque chose ». Et les dieux la métamorphosent. Parce que si tu peux ni vivre ni mourir, tu n'as qu'une solution, c'est la métamorphose. Hein. Ça, il faut bien le retenir. Hein. Les Grecs avaient bien pigé quelque chose, un principe de psychologie élémentaire. Hein. Si tu ne peux ni vivre ni mourir, tu n'as qu'une solution, c'est de changer. Hein. Et donc, à ce moment-là, il la métamorphose en arbre. La myrrhe, c'est pour ça qu'elle s'appelle Myra, la myrrhe, l'arbre à myrrhe, qui ne pousse que dans ces pays, d'Afrique, en Éthiopie, etc. Et cet arbre à myrrhe s'ouvre, il grossit, il s'ouvre, et le placenta qui va sortir après, il va donner naissance à Adonis, hein, c'est Adonis qui va naître de ça, et le placenta qui va sortir après, c'est la myrrhe, justement, c'est cette résine qu'on récolte, d'ailleurs c'est un peu la forme et la couleur du placenta, hein, et qu'on récolte sur les arbres, et qu'on travaille, et qu'on transforme en parfum. Vous avez sûrement ce parfum sur vous, hein. Je suis sûr que chacune d'entre vous a de la myrrhe sur lui, parce que il est un des ingrédients d'à peu près tous les parfums encore aujourd'hui, la myrrhe. Hein. Et donc, c'est comme si on disait d'abord que ce à quoi on ne peut pas résister, c'est l'odeur. Parce que l'odeur, elle rentre à votre insu. Quand vous sentez une odeur, elle est déjà dedans. C'est pas quelque chose contre quoi on peut se défendre. Elle arrive, vous ne savez pas quand elle arrive. Mais une fois que vous savez qu'elle arrive, elle est déjà dedans, elle est déjà entrée. Donc c'est fini, vous ne pouvez plus la faire sortir. Il y a des odeurs qui vous restent d'ailleurs collées aux narines pendant des jours. Hein. Ouais, ça vous est arrivé tous. Hein. Et bien sûr, parce que c'est une effraction. Or, quand on veut penser l'effraction à l'intérieur de la pensée de l'autre, eh bien évidemment, c'est l'odeur. Donc le parfum par excellence est le véhicule de ces choses qui rentrent par effraction dans les personnes. Et c'est pourquoi, dès le début, Adonis, c'est ça, c'est le parfum. Adonis est lui-même le parfum. D'ailleurs, il est là, la première personne qu'il voit, c'est Aphrodite. Elle le voit, elle tombe amoureuse de lui. C'est illico, quoi. Tombe amoureuse de lui. Dit-on aussi à cause du parfum qui l'entourait, du fait qu'il baignait dans de la myrrhe, quoi. Et donc, même Aphrodite, elle tombe amoureuse de lui. Après, ça va être son chéri. Là, vous savez, vous connaissez l'histoire après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des rituels en Grèce, enfin des fêtes, une fois par an, qui s'appelaient les Adonis. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant les Adonis? Eh bien, c'était des sortes de partouzes, en fait. Hein. Non, mais des partouzes sympas. Hein. Mais je veux dire, c'est pas partouzes au sens un peu violent qu'a pris le sens aujourd'hui. C'était des sortes de fêtes à la sexualité au cours desquelles on venait masquer avec des odeurs et on séduisait, non pas par son apparence, mais par autre chose, et évidemment par l'odeur. Et c'était, on utilisait beaucoup les parfums pour ça. Donc le parfum est connu dès ce moment-là comme le véhicule de la séduction, c'est-à-dire cette chose qui entre par effraction et qui obtient le désir malgré la conscience de la personne, ou au-delà de la conscience de la personne. Voilà pourquoi il devait figurer en bonne place dans ce livre, ce récit sur Myra. Ça va toujours, vous comprenez ce que je raconte, oui. Bon.
Puis on va terminer avec l'histoire de Tristan Iseux, qui est une histoire de filtre d'amour qui fonctionne trop bien, mais pour des personnes à qui ça n'était pas destiné.
Ouais, mais non, ça va pas du tout, hein. L'histoire de Tristan Iseux, ça va pas du tout, quoi. Non, non. Et on n'a pas bien compris l'histoire de Tristan Iseux. Tout le monde raconte l'histoire de Tristan Iseux comme l'histoire d'une passion amoureuse entre Tristan Iseux. C'est pas ça, hein. C'est l'histoire d'un filtre qui marche mal, en fait. Bah oui, parce que normalement, je veux dire, si quiconque fabrique un filtre, ça peut pas marcher sur n'importe qui. Un filtre est adressé. Je vous disais ces objets à goguer là. Ces objets à goguer, vous disiez, moi, Toby Nathan, non, enfin, ça commençait pas comme ça. Je demande à Inanna, ou à Aphrodite, ou à Ishtar, ou à Ashtarté, ou à la force, quoi, que j'invoque, quoi. Je lui demande que Françoise Dupont, je prends un nom au hasard, donc que Françoise Dupont vienne se soumettre à moi, Toby Nathan, pleine de désir de manière cohérente avec tous les miens de désir. Et j'écris ça sur le papier. Donc, j'écris ça pas sur le papier, sur le straka. Donc, en fait, et ça, c'est les Grecs. Les Grecs, il n'y a même pas encore l'adresse, quoi. Sinon, je dis à moi, Toby Nathan, qui habite telle rue à telle adresse. Moi, Toby Nathan, qui suis né à telle date, qui suis de tel signe, dont la mère s'appelle comme ça, pour qu'on ne se gourre pas, quoi. Donc tout ça est inscrit dans l'objet. Or, la sorcière qui fabrique le filtre, qui est la mère d'Iseux, qui, dit-on, était une très grande sorcière, c'est ça qui est dans le récit, hein, elle marque même pas quel est le destinataire du filtre dans le filtre.
Elle fait juste une potion en disant
ouais, mais non, bah une potion, il y a des choses dans la potion. Moi, je sais mettre des textes dans une potion, quand même. C'est très facile de mettre des textes dans une potion. Bah oui, moi, je sais très bien mettre des textes dans une potion. Je peux vous faire boire des lettres. Je peux vous faire boire des lettres, on sait. Je veux dire, tous les marabouts savent faire ça, hein. Et j'ai pas besoin d'être marabout pour savoir faire ça. Donc, elle pouvait parfaitement dire, constituer un filtre qui était adressé. Donc, soit c'est une mauvaise sorcière, ce que je crois pas, la mère d'Iseux. Elle était connue comme étant une très grande sorcière. Soit il y a une perversité dans le récit. Et c'est d'ailleurs cette perversité de la sorcière, de la mère, qui donne la force dramatique de ce récit. Puisqu'au fond, tout vient du fait que le filtre marche pas, quoi. Il marche pas comme il faut. Donc Tristan et Iseux, c'est beaucoup plus, je veux dire, c'est à la fois, c'est une date, hein, c'est le 11e, 12e siècle, hein, en Europe. Hein, et c'est en Europe, hein, c'est toute l'Europe. Hein, Tristan et Iseux, c'est toute l'Europe. Hein, c'est aussi une pratique, qui est une pratique à laquelle vous êtes attaché aujourd'hui, hein. Vous êtes même peut-être complètement accro à cette pratique. Je ne parle pas du filtre, hein. Je parle des récits sous forme feuilletonnée. Vous regardez des feuilletons à la télé, et ben c'était pareil à l'époque, sauf que c'était pas à la télé, et c'était des mecs qui venaient vous les raconter chez vous, et ils inventaient d'une suite, et puis une suite, et puis une suite. Et donc c'est pour ça que l'histoire de Tristan et Iseux est finie jamais. Parce que après ils disent, bah, il faut raconter la suite. Et racontez-nous la suite, et racontez-nous la suite. Et il y a toujours des prolongements. C'est en fait, c'est le mentaliste en avance, si vous voulez, Tristan et Iseux. C'est un peu ça, hein. C'est pour ça qu'il a cette forme-là. Mais cette forme-là provient d'une autre tradition. Et c'est là où on peut ouvrir cette histoire. Tristan et Iseux, bien sûr qu'on y a vu un changement radical de la façon dont on constitue les couples, quoi. Puisqu'on dit l'amour ou le mariage. L'amour ou le mariage. Comme si l'amour était opposé au mariage. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est cette opposition à cause du filtre, l'amour ou le mariage. C'est ce qu'a dit Denis de Rougemont. Sauf que Denis de Rougemont, en disant ça, en disant que l'histoire de Tristan et Iseux, c'est la mise en scène de cette dichotomie qui va avoir un destin jusqu'à présent, l'amour ou le mariage, quoi. Il oublie un élément fondamental qui est le ressort dramatique du récit, c'est le filtre, justement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le filtre, précisément. Et ce filtre, il a aussi une autre fonction, c'est qu'il apparaît quelque chose, c'est un changement beaucoup plus important que celui que décrit Denis de Rougemont. C'est que, vous me permettez juste un petit détour et vous allez comprendre, c'est que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent implique que les dieux aient des relations sexuelles avec les êtres humains. Ça, on a pensé ça très très longtemps. Ça a donné lieu à tout ce que je vous racontais, mais ça a aussi donné lieu à des excès. Vous imaginez les excès que ça pouvait, auxquels ça pouvait conduire. Ben, vous imaginez bien. Bon, je vous passe les excès, mais en tout cas, vous en voyez des traces dans les dénonciations qu'il y a dans la Bible, quoi. Et donc, il y a une sorte de sursaut moral contre ça. Et le monothéisme dit, attention, les dieux ne couchent pas avec les hommes. C'est le monothéisme qui dit ça. Et après, tous les monothéismes ont embranché là-dessus. Ils ne couchent pas avec les êtres humains tout seuls. Mais ils ont des relations avec les êtres humains, en couple. Bah oui. Bah c'est, sinon, vous n'iriez pas vous marier à l'église. Ça veut dire, quand vous vous mariez à l'église, bah c'est que Dieu s'accouple avec le couple. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même est un couple. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez avoir une relation quelconque avec Dieu, il faut déjà que vous soyez en couple. Donc la question du couple est la question de Dieu. C'est la même chose. D'ailleurs, ça produit des conséquences aujourd'hui, comme vous savez. Hein. Bon, alors, donc la question du couple, c'est la question de Dieu. Et c'est parce qu'on est en couple qu'on peut rencontrer Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, il naît cette idée qui est complètement ancrée en nous aujourd'hui, plus que jamais, qui est l'histoire de l'âme sœur. Parce qu'il faut que le couple soit parfait pour que Dieu puisse avoir une relation avec. Et donc, il faut qu'on trouve la personne qui me correspond exactement. Et Tristan et Iseult, c'est l'irruption de cette notion d'âme sœur dans la vie sociale, quoi. Et après ça, tout le monde veut son âme sœur. Aujourd'hui, plus que jamais. Je raconte, c'est un petit, tout petit passage dans le livre où je relate simplement que des gens qui fréquentent les sites de rencontres où on vous propose de chercher de manière presque scientifique, statistique, votre âme sœur. Vous allez la trouver parce que qu'est-ce que vous préférez, quelle couleur vous préférez, quel machin vous préférez, à quoi vous vous intéressez. On va statistiquement, on va vous trouver la personne qui vous correspond. Cette notion d'âme sœur, c'est combien il y a de personnes qui fréquentent les sites de rencontres en France? 20% de la population? Et on est très très en retard sur nos voisins. Les Allemands, 40%. Les Espagnols, 40% de la population. C'est-à-dire, cette notion d'âme sœur est tellement rentrée dans la tête, est tellement là comme la condition même de notre existence sexuelle et spirituelle à la fois, que c'est venu, hop, comme ça, se verrouiller sur une technique moderne, quoi. La modernité ne fait rien d'autre que de nous donner la possibilité de mettre en scène cette histoire d'âme sœur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais je fais des raccourcis un peu. Bon, voilà. Voilà ce que je raconte là-dedans. Mais tout ça, juste encore un mot, si je peux ajouter encore un mot. Tout ça, j'ai fait tout ça, c'est en fait pour répondre à des questions que me posaient mes patients, en fait. Hein. Parce que ça a commencé comme ça. Cette interrogation sur ce bouquin a commencé comme ça. C'est-à-dire, je peux dire que la plupart des gens qui tombent malades, des gamins qui tombent malades à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, c'est quasiment automatique. Comment ça a commencé? J'étais amoureux d'une telle, ou j'étais amoureux d'un tel, et puis un jour j'ai fini par lui dire, et il m'a dit, j'ai autre chose à faire, écoute, arrête. Et là, tac, ça s'est cassé à cet endroit-là. Donc, cette notion que l'amour a cette puissance de déconstruction, de construction et de déconstruction de la personne, c'est les patients qui me l'ont apporté avant tout. C'est une question clinique au départ. Et j'ai dit, si on prenait au sérieux ce qu'ils invoquent eux-mêmes, voilà. Et j'ai voulu démonter l'affaire. Il y a quelques récits de patients dans le livre qui témoignent de cette interrogation.
Et notamment un, en fait, qui vient vous voir pour vous demander de faire revenir l'être aimé.
Ouais. Ça m'a drôlement surpris, celui-là. Parce que c'est un homme, ça lui ressemble pas du tout, quoi. C'est la haute, quoi. C'est la haute, notre aristocratie républicaine, quoi. C'est des hauts fonctionnaires de l'État, mecs qui bossent dans un. Il bossait dans un cabinet ministériel. Bon, il était un peu surmené, c'est vrai, il était un peu fatigué. Et puis, il avait 40 ans, il avait divorcé 10 ans auparavant, etc. Et puis, il a eu une relation sexuelle avec une femme, un truc top aussi. Hein. Il dit qu'il a eu 7 ou 8 rapports sexuels dans la nuit avec la même femme, quoi. Et donc, c'était extraordinaire, sauf qu'après, la femme, elle ne voulait plus le voir. Hein. Mais lui, il était resté attaché à elle, totalement amoureux, fou d'elle. Et il est venu avec une question. « S'il te plaît, tu peux me la faire revenir ?» Alors j'ai dit « Ah bon ? C'est quoi la question exactement ?» Et puis après, je me suis dit « Si on prenait au sérieux ce qu'il disait, comment, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. » Voilà, et je me suis occupé de lui pendant 2 ans. Et elle est revenue.
Elle est revenue.
Ouais. Voilà. Mais je ne vous raconte pas ce que j'ai fait. C'est pas la question. Hein.
Non, en tout cas, c'est une très jolie conclusion. Merci beaucoup, Toby Nathan. Merci à tous et à toutes d'être venus.
Merci beaucoup. Merci de votre écoute.